Les ouvriers paria. Chantier en cours, de traduction en français du roman de l'écrivain américain Charles Fort, d'Outcast Manufacturer, publié en 1909. Lecture faite par un logiciel de synthèse vocale. Les ouvriers paria. Chapitre 5. De retour dans la mer des sargasses. Le caisson avait dérivé mais pas tout à fait à sa profondeur originale, de noyade, mais la fumée du poêle avait formé des figures grotesques, floues sur les murs, comme vues de loin. Le milieu du sol était une clairière avec une bordure en dents de scie de papier et de lettres, balayée sous le sofa, sous les tables, les chaises et le poêle, des papiers récents empilés sur les coins, le tout formant une frange au contour en encoche, les pieds de Sim. Sim est à sa table, traînant les pieds dans cette frange, fumant de temps en temps un mégot de cigarette, si consumé qu'il l'a transpercé d'une épingle pour le tenir. Monsieur Birtwist l'est allongé à plat ventre sur le sofa, les mains croisées sur un chaton endormi contre sa poitrine, soufflant la fumée d'une cigarette, de sorte que sa face aplatie, avait l'air appuyée contre du verre dépoli, puis lui, avec un index, et le chaton, avec une patte, faisait de l'escrime. Mademoiselle Guffy n'était pas dans la pièce, Madame Birtwist l'est assise dans la chaise près de la fenêtre ouest, martelant une boîte de lait condensé vide, torchant des flocons de lait cristallisé, pour remplir une soucoupe de lait pour le chaton et pour un chat, les yeux levés vers elle et poussant des miaulements. « Ah, tais-toi !» cria Madame Birtwist au chat. « Je ne peux pas vous nourrir à chaque minute. » Un crayon tomba de derrière l'oreille de Monsieur Birtwist. Monsieur Birtwist le rouspéta, « Donnez-moi un crayon. » « Qui a un autre crayon ?» Il n'y avait rien qui suggère à un moment passé de prospérité, excepté un petit phonographe bon marché sur la table de Sim, acheté avec l'espoir d'être hébergé les nuits chez Monsieur Birtwist. Quelqu'un, en franchissant les rideaux bleus, en avait arraché un, et il pendait, montrant l'intérieur de la pièce, où, sous la lueur d'une lampe, la toile cirée d'une table, miroitait sur les traces où des doigts avaient frotté dans la graisse. « Sim, dit Monsieur Birtwist d'une voix traînante, voici une bonne phrase, l'opulence de l'Orient. Vous pouvez placer ça quelque part. Êtes-vous en train de vous exercer à rédiger des publicités ? Sans blague. Dit Sim dédaigneusement. Pourquoi faire ? J'écris aux gens chez moi. N'écrivez pas une lettre démoralisée, Sim. Oh, le petit démon. Elle plante sa griffe sur moi cette fois. Nous sommes juste au bord du succès, si seulement nous pouvons traverser cette mauvaise passe. Le bord. Toujours au bord. S'exclama Madame Birtwist, frappant méchamment des flocons de lait condensé à l'intérieur de la boîte. Je suis fatiguée d'entendre parler de ce bord où nous sommes toujours. Si seulement j'avais quelqu'un qui ait foi en moi. Maugréa Monsieur Birtwist. Delia, n'avez-vous pas la moindre foi en moi? Pas le moindre du monde. Vous-même ne l'avez pas en vous. Je ne vois rien dans l'avenir que la pauvreté et la misère tous les jours de ma vie avec vous, et jamais un nouveau chapeau ou les choses qu'une femme veut. Vous êtes un paresseux, gros, ignorant imbécile, sans l'éducation d'un gamin comme Monsieur Rack, et, si je ferme les yeux, ça me rend folle de voir mon avenir avec vous. Pas un espoir. Rien qu'une épouvantable pauvreté et la misère. Mais, chaton, chaton. Dit Monsieur Birtwist, en donnant un petit coup sur le nez du chaton. Chaton vif qui lui rendit instantanément un petit coup de patte. Avoir foi en vous ? Railla Madame Birtwist, en riant désagréablement. Puis elle demanda. Quelle quantité d'eau vais-je mettre dans ce lait ? Remplir toute la soucoupe ? Environ trois quarts de soucoupe, dit M. Beertwistle avec précision. J'ai d'immenses aptitudes. Si seulement j'avais quelqu'un, un enfant, un chaton, un cochon d'Inde qui croyait en moi, un rat blanc, même. J'amènerai ici le prochain bâtard jaune que je vois dans la rue. Monsieur Beertwistle se redresse. Je n'échouerai plus alors. Je réussirai. Je ferai reconnaître mes capacités. J'aurai un chien jaune qui croit en moi. Vous n'apporterez rien d'autre ici qu'on doive nourrir. Oui, ce serait tout à fait de vous, quand il n'y a déjà pas assez pour tout le monde. Avec un seul œil, et une boîte de conserve attachée à sa queue, dit Monsieur Beertwistle. Quand je lui dirai, je suis le grand Monsieur Beertwistle, il me regardera de son œil unique avec fermeté, pour me signifier, si vous dites que vous l'êtes, ceci s'impose positivement et pour toujours. Je dirai, je sais que je le suis car je ressens le pouvoir que j'ai, je peux sentir la puissance, notamment quand j'écoute de la musique, et elle déferle en moi. Il aboiera un peu, pour dire, je le sais. Quelqu'un peut-il en douter? Je n'ai jamais pleuré depuis que je suis adulte, mais il y aura presque une larme dans mon œil. Quand je trouverai le chien jaune, avec une corde à sa queue, et un seul œil, qui pourra me regarder et dire, je crois en vous. Madame Kiké, avec sa capuche noire, regarda dans la pièce. Madame Kiké, sombre et encapuchonnée comme un faucon. Voici l'homme le plus sensé de New York. Montrant Monsieur Beertwistle avec admiration. Tenez, Madame Beertwistle. En remettant à Madame Beertwistle trois pains de savon. Ne dites pas que je ne donne jamais rien à personne. Comme un faucon fondant sur un serpent, elle se précipita sur un morceau de ficelle sur le sol, et l'enroula autour de ses serres épaisses et courbées. Il pourrait servir un de ses jours. Elle s'envola, répétant, c'est vrai, Monsieur Beertwistle. Vous êtes l'homme le plus sensé de tout New York. Et Madame Beertwistle le dit, elle chantera une autre chanson si notre loyer n'est pas payé d'ici la fin du mois. Oh, comme c'était fin, et grandiose. Augmentez votre propre loyer pour le mois dernier, et vous ne pouviez même pas alors payer le loyer de ce mois quand il était dû. Oh, non, vous ne pouviez pas payer le loyer. Quand vous aviez l'argent, mais, venez, Sim. Venez, Asbury, mais on n'entend plus beaucoup ça maintenant. Venez, Sim, voulez-vous descendre au Waldorf avec moi pour dîner? J'ai l'argent, oh, les poches pleines. Je suis la grande Madame Beertwistle. Sans doute, vous avez entendu parler de moi. La femme de Monsieur Beertwistle. Vous ne connaissez pas Monsieur Beertwistle? Jamais entendu parler du grand et talentueux Monsieur Beertwistle? Comment se fait-il? Oh, je vois vous n'êtes pas à New York depuis très longtemps. Bon, si quelqu'un vous le demande, je suis sa femme. Cela ne vous stupéfie-t-il pas, Sim et Asbury? Monsieur Beertwistle tend le bras, riant. L'attirant pour l'asseoir à côté de lui, Madame Beertwistle, riante, s'assoit à côté de lui, lui caresse la tête, rit. Venez, Sim. Ce serait indigne de la distinguer Madame Beertwistle de dîner où, que ce soit ailleurs qu'au Waldorf. Je suis occupé. Dit Sim en riant. Tassé sur lui-même Monsieur Parker, ne semble rien entendre ce qu'Ike est en train de se dire. Je le défie de lire sa lettre à haute voix. Dit Monsieur Beertwistle. Nous entendrions une description affreuse de nous-mêmes, je pense. De vous-même. Dit sèchement Madame Beertwistle. Je suis sûr que je fais de mon mieux, pour aller de l'avant et joindre les deux bouts, comme Monsieur Oracle sait très bien. Oh! Je suis ce que vous faites de moi. Soyez un homme honnête, travailleur, et personne n'aura un foyer mieux soigné que le vôtre le sera. Je n'ai jamais vécu ainsi avant de vous avoir rencontré, je suis ce que vous faites de moi, et tout ce que je fais mal est uniquement de votre faute. Lisez ce que vous avez écrit à son sujet, monsieur Orak, cela pourrait rabaisser un peu sa suffisance, bien que je suppose que rien ne le puisse. Bir, posez ce chaton par terre et levez-vous et faites quelque chose. Au travail! Cria monsieur Bir Twistle, se levant à demi. Tout le monde au travail! Dit monsieur Bir Twistle en se laissant retomber en arrière. Ici, chaton, chaton, puis en grommelant, pourquoi avoir pris ce savon de madame Kiquet? Nous ne voulons rien d'elle ni de personne d'autre. Vous lui rendez, vous avez entendu? Nous pouvons acheter notre savon. Voici la lettre, dit Sim. Je vais la lire, je passe sur cher oncle, et quelques questions sur des gens que je connais, et ces sortes de choses. Bon, voici, à l'heure actuelle je vis au sein. Rogie, voyez, exhibant la lettre. La nuit dernière je suis allé au sein. Rogie et j'ai pris du papier à lettres de l'hôtel. Oseriez-vous aller dans un tel endroit, sans avoir rien à y faire? Demanda madame Bir Twistle, impressionnée. Moi? J'irai n'importe où. Il n'y a rien de timide en moi, madame Bir Twistle. Je suppose que vous l'avez remarqué? Dit avec son petit sourire bête quand il est mal à l'aise, son incapacité à rester immobile quand il parle, ses mains se tordant et s'agitant sans relation avec ses paroles, comme des illustrations imprimées dans le mauvais livre. Moi timide. Qu'en dites-vous, Bir? Quoi qu'il en soit, écoutez, je pense prendre un appartement dans l'un des clubs où j'ai été accepté comme membre grâce à monsieur Parker, qui est le secrétaire de notre entreprise. J'ai maintenant la charge complète du travail publicitaire pour les gens de la Universal, et juste ce matin j'ai signé un contrat de publicité pour une valeur de 20 000 dollars, qui apparaîtront principalement dans l'Ouest, même si nous sommes en train de nous préparer à inonder l'Occident avec de la publicité qui fera ressembler ça à une broutille. Je ne peux pas dire, cependant, que je sois beaucoup plus à l'aise, après toutes mes promotions, car l'augmentation du coût de la vie fait que ça revient au même, pour autant qu'on puisse parler de bénéfices. Êtes-vous vraiment aussi ignorant que ça? Demanda monsieur Bir Twistle. Oh, et maintenant, hein, maintenant, vous n'allez pas me traiter de tous les noms, vous savez. Je ne veux pas perdre mon sang-froid avec vous, Bir, mais, présentement, je supporterai très difficilement d'être insulté, maintenant, vous voyez. Êtes-vous un vrai exemple de neveu, tel que les neveux sont de nos jours, Sim? Croyez-vous que l'oncle de qui que ce soit, croirait que le neveu de qui que ce soit pourrait faire de tels progrès, en seulement quelques semaines? Oh, eh bien, présentement, vous n'avez pas besoin de me rabaisser en public comme ça, vous savez. Je ne voulais pas la lire à haute voix, de toute façon. Pensez-vous que je devrais en modérer un peu le ton? Je voudrais n'avoir jamais commencé à l'écrire de cette façon. À la maison je leur ai donné à croire que je suis un décès, présentement, prince du commerce dont on parle. Aussi comment vais-je rentrer, si on ne réussit pas ici? Je ne peux pas m'en retourner, pour l'instant. Je vais m'en retourner, mais je ne peux pas m'en retourner, pour l'instant. Aux yeux de madame Bir Twistle, j'ai passé avec moi-même un arrangement qui donne le frisson. Il y a de la complexité en lui. Voyez-vous, la première fois que j'ai pensé à venir ici, toute mon idée était de venir ici et d'échouer. Les circonstances ont fini par faire que mon idée soit de venir ici et réussir. En même temps mon projet était d'échouer, vous comprenez? Ah! Dit monsieur Bir Twistle. Vous vouliez échouer et réussir? Vous montrez beaucoup de caractère dans la façon dont vous vous exprimez, Sim. Vous feriez un grand rédacteur publicitaire. Oui. Vous voyez mon idée? D'abord quand je vous ai écrit, c'était mon projet de venir ici et d'échouer. Je voulais aller quelque part et échouer, aussi j'allais m'échapper de la ville, et on raconterait que j'étais à l'extérieur en visite. Pauvre de moi, ce que je sais c'est que j'ai montré votre lettre à toutes sortes de personnes, et que toute la ville a été au courant. On faisait des paris sur ce sujet, l'excitation était intense, le Palladium a fait un article sur un des jeunes hommes, les plus en vue de la côte ouest, accepte un poste de responsable à New York, le reste de la ville disait, « Oh, mon Dieu! Sim a obtenu une situation. Je crois que les chances étaient de 10 contre 1 en défaveur quand la nouvelle est sortie. C'est pourquoi, la première nuit que j'étais ici, j'ai écrit chez moi sur les immenses compétences que je montrais. Bon, oui, Sim, bien que ça m'ait laissé perplexe au début, je peux croire que vous vouliez réussir. Maintenant que pouvez-vous dire de votre détermination à échouer? Ce devrait être facile d'expliquer ça. Ne faites pas le malin avec Sim. Dit Madame Birtwistle, il est aussi intelligent que tous ceux que je vois ici. Oui, il y a de la complexité dans ça. C'est parce que mon oncle, qui est un remarquable homme d'affaires maintenant. Oh, il y a 40 ans, quand il commençait sa première entreprise, il a fait ça terriblement au petit bonheur la chance. Je ne connais pas grand-chose sur les actifs et les passifs, mais ils s'embrouillaient complètement dans ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, il dit que tout le monde doit d'abord échouer, et que c'est la meilleure chose au monde à faire, et que personne ne peut apprendre autrement. Alors, il me prendra avec lui dans son affaire un de ses jours, mais il est irréfutablement superstitieux sur le fait qu'on doit d'abord échouer. Aussi il vaut mieux pour moi aller quelque part et faire faillite, ici ou ailleurs, et puis rentrer, et être prospère avec lui. Mais ne pensez pas que nous ayons jamais vraiment discuté ou arrangé, quoi que ce soit de la sorte. Ce serait vraiment très petit, de me dire de m'en aller et de faire faillite quelque part. Non, ce fut seulement une sorte d'accord tacite entre nous. Bon. Après les lettres que j'ai écrites, je ne peux faire marche arrière maintenant, peut-être pas encore avant des mois, c'est certain. Dites, Bir, levez-vous et commençons quelque chose. Vos catalogues sont partis travailler pour vous, vous ne pouvez dire quand les choses vont prospérer à nouveau. Si nous ne faisons pas autre chose, sortons ces formulaires de commande et les lettres de relance. Et mettons les choses en ordre. Au travail !» dit Monsieur Birtwistle avec excitation. En avant donc, tout le monde. Vous aussi, Madame Birtwistle. Je suis ici, et je ne peux faire machine arrière, et nous devons réussir. Au travail !» dit presque imperceptiblement Madame Birtwistle. Oh! Qu'est-ce qu'on peut faire avec un type comme ça? Je vous parie que je pourrais prendre racine ici, et faire que les choses réussissent pendant un moment. Mademoiselle Guffy entra dans la pièce. Le temps était frais, à peine assez frais pour porter une cape, mais Mademoiselle Guffy portait une cape. Mademoiselle Guffy ôta son chapeau, avec une main qui n'avait pas l'air libre, l'autre main restait sous la cape. Mademoiselle Guffy telle un coléoptère, ses cheveux ailes de scarabée avec un aspect de velours côtelé, avec des mèches épaisses de pommade. Maudite demi-journée. Dit-elle à Madame Birtwistle. Et est-ce que j'arrive en retard? En toute bonne foi, je ne pouvais pas sortir plus tôt. Elle s'est prise d'une grande affection pour moi, cette Madame Muret. Et m'aurait retenu assise à discuter avec elle longtemps, après que mon travail soit fini. Mais ça ne vaut pas la peine de sortir pour une demi-journée, et il y avait une noire à la cuisine, avec laquelle j'ai horreur de travailler, ce sont de tels voleurs, et on se retrouve, probablement, tenu pour responsable de leur vol. Vous ne pouvez faire confiance à aucun de leur genre, un jour ou l'autre on les attrape en train de sortir de la maison avec tout ce qu'il y avait dedans. Ils ne sont pas civilisés, le noir ne l'est pas, si je pouvais choisir je ne travaillerais jamais avec l'un d'eux, et risquant peut-être d'être tenu pour responsable qu'elles volent. Et la nourriture qu'on vous sert, Madame Birtwistle. Il était midi, et Madame Murray me dit, Mary, vous pouvez descendre maintenant et déjeuner. Je descends à la cuisine, et la fille. Je le dis, j'ai peur pour ma vie quand je travaille avec eux, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont toujours en train de voler. Elle désigne une table, et il y a un œuf et une pomme de terre froide, et un morceau de beurre sur le bord de l'assiette. Où est mon déjeuner? Demandai-je à la fille. Laisse-la, est la réponse qu'elle me donne. Où? Vous êtes aveugle, ne le voyez pas sur la table devant vous? Alors je suis aveugle, lui dis-je, en montant les escaliers, et à Madame Murray, je lui dis, voulez-vous que je continue mon travail et ne déjeune pas? Alors n'avez pas eu vos déjeuners? Je ne l'ai pas eu, madame, ne l'avez pas eu, voilà qui est étrange, descendez avec moi. En bas dans la cuisine elle dit, eh bien, votre déjeuner est là. Oh, non, vous m'excuserez, Madame Murray, madame, mais ce n'est pas un déjeuner pour une femme qui fait sa demi-journée de travail. De fait, je ne vois aucun déjeuner ici. Aussi puis-je me permettre de demander où est mon déjeuner, madame? Dépenserez-vous 25 cents et sortirez-vous pour acheter votre déjeuner, me demande-t-elle. Je le ferai avec plaisir, et je serai marche pendant un moment, et voici 75 cents tout rond, Madame Birtwistle, et j'aurais voulu par Dieu que ce soit 75 dollars. Que j'ai ramené ici pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire autant de bruit à ce sujet. Grommela Monsieur Birtwistle. Personne ne vous a demandé de sortir, si vous aviez quelque peu foi dans l'universal, vous ne seriez pas parti. Oh, bien sûr que c'était très gentil de votre part de vouloir aider, Mademoiselle Guffy, seulement que vous n'aviez pas besoin en revenant, de crier à toute la maison où vous étiez allé. Excusez-moi, monsieur, dit humblement Mademoiselle Guffy, mais est-ce que ceci pourrait vous être de quelque utilité, monsieur Birtwistle? En sortant de dessous sa cape un chapeau pliable en soie. Il traînait dans les parages et il a attiré mon attention quand je suis sortie. Mademoiselle Guffy, vous ne devriez pas faire ce genre de choses. À quoi peut me servir sur terre un chapeau claque? C'est vrai, mais il a attiré mon attention, monsieur Birtwistle. Oh, c'est ça alors? Je me posais la question, effectivement, et si on ne se rend pas service on n'aurait jamais rien. Est-ce que vous pourriez trouver une utilisation à ça, madame Birtwistle? Ça aurait belle allure sur une table. Sortant de sous sa cape un volume de sermons relié en maroquin. Le diable soit de vous! S'exclama Madame Birtwistle avec admiration. Est-ce que vous fumez, Asbury? Je n'aurais pas l'audace d'offrir ces cigares à Monsieur Birtwistle. Je ne sais pas ce qu'il est en train de penser de moi, pour ce qu'il en est, mais, vraiment, quand je gagne seulement 50 cents, pour mes 6 ou 7 heures de servitude, on ne peut guère me reprocher de m'aider moi-même. Je suppose que ceci ne vous serait guère de quelque utilité? Et sort de sous sa cape, une boîte d'allumettes, une boîte de farine, un couteau et une fourchette, tous attachés ensemble. Guffy, vous êtes un joyau. Mademoiselle Guffy. Comment qu'à Monsieur Birtwistle en se redressant. Oh, vous, laissez Guffy tranquille, cette femme a largement les moyens. Oh, non, madame, dit Mademoiselle Guffy avec humilité, laissez-le parler, madame, Il parle pour mon propre bien, et je le sais. C'est vrai, et j'aurai des problèmes un de ces jours, mais ces maudits riches, comme vous le dites bien, ils ont largement les moyens. Oui, je sais que vous parlez pour mon propre bien, monsieur Birtwistl. J'oserais tout juste vous demander si ceci vous serait utile, exhibant une cravate brillante en soie. Oh, malédiction! Dit monsieur Birtwistl, se raidissant sur le sofa. Où est allé ce chaton? Oui, merci, mademoiselle Guffy. Oh, malédiction, mon amour propre, mon amour propre. Merci, mademoiselle Guffy. Oh, si je fume? Demanda Asbury Parker. En vérité, c'est une poignée de cigares que j'ai pour vous. À ce moment, Sim se pencha sur sa lettre, et sembla absorbé par elle. Et monsieur Rack? En hésitant, Sim souleva les yeux, la face rouge. Guess-ce? J'ai gagné des cigares? Son visage était rouge vif. Il raidit rudement, donnez-en un. Eh bien, voici pour monsieur Murray. Dit monsieur Birtwistl, lui, aussi, prenant un cigare. Très bien pensé de la part de monsieur Murray, hein, Sim? Brave homme de se rappeler de nous de la sorte. Sim, nous ne pouvons pas travailler plus aujourd'hui. Asbury, nous avons travaillé assez longtemps. Allons à la rivière. Voyons, quel col vais-je mettre? Si vous étiez un homme convenable, vous auriez tout ce que vous voulez. Je n'ai que deux cols. J'en porte un jusqu'à ce que j'en ai honte, puis l'autre qui en comparaison a l'air tout à fait respectable, et ainsi de suite. Asbury Parker met son manteau, mais il semble qu'il n'a pas de col, mais un chapeau qui repousse trop haut, et trop petit sur sa tête broussailleuse. Si on vient pour moi, dit monsieur Birtwistl, retenez-les jusqu'à ce que nous revenions. Ils sortent, monsieur Birtwistl portant un chapeau mou gris à large bord, sans ruban autour, mais un cercle noir sur le gris, à l'emplacement où il y avait un ruban. Sim plus grand que les autres, son costume léger, son chapeau de paille avec son ruban éclatant. La petite fille des Tunants entra dans la pièce, comptant sur ses doigts, disant, avec une intense gravité, côtelettes de porc, choisissez les petites et maigres, un quart d'oignon, du pain et du fromage américain, je serai bientôt de retour et vous donnerai votre leçon, mademoiselle Guffy. Elle sort, faisant claquer ses doigts, disant avec gravité, côtelettes de porc, choisissez les grasses et maigres. Et quelle leçon pourrait vous donner cet enfant, Guffy? Et de quoi cet enfant est-elle en train de parler? Pour sûr, répondit mademoiselle Guffy, vous n'avez pas besoin de me le raconter, mais je reçois d'elle les leçons de gymnastique qu'elle apprend à l'école. Ça me ferait mieux me tenir, n'est-ce pas, je ne sais pas? J'ai les épaules voûtées à force d'être penchée sur mon travail. C'est pourquoi je la reçois dans l'arrière-boutique. Je me demande s'il y a quelque utilité à faire leur gymnastique, je ne sais pas. Et aussi, madame Birtwistl, elle enlève sa cape, bien sûr, ce n'est pas grand-chose que je vous offre, mais est-ce que ces tabliers ne vous seront pas utiles dans la maison? Vous n'avez pas besoin de dire comment vous les avez eus, ce qu'il ne sait pas ne le rendra pas plus malin. Guffy, vous dépassez les bornes. Dit madame Birtwistl avec admiration. Fin du chapitre 5, à suivre. Point.